Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici encore ensemble, donc ce soir, pour continuer notre promenade poétique. Et je vous propose tout d'abord quelques textes de Guillaume Apollinaire. Annie. Sur la côte du Texas, entre Mobile et Galveston, il y a un grand jardin tout plein de roses qui contient aussi une villa qui est une grande rose. Une femme se promène souvent dans le jardin toute seule, et quand je passe sur la route bordée de tilleuls, nous nous regardons. Comme cette femme est ménonite, ses rosiers et ses vêtements n'ont pas de boutons. Il en manque deux à mon veston. La dame et moi suivons presque le même rite. La maison des morts. S'étendant sur les côtés du cimetière, la maison des morts l'encadrait comme un cloître. À l'intérieur de ses vitrines, pareilles à celles des boutiques de mode, au lieu de sourire debout, les mannequins grimaçaient pour l'éternité. Arrivé à Munich depuis 15 ou 20 jours, j'étais entré pour la première fois et par hasard dans ce cimetière presque désert. Et je claquais des dents devant toute cette bourgeoisie exposée et vêtue le mieux possible en attendant la sépulture. Soudain, rapide comme ma mémoire, les yeux se rallumèrent. De cellule vitrée en cellule vitrée, le ciel se peupla d'une apocalypse vivace. Et la terre, plate à l'infini, comme avant Galilée, se couvrit de 1000 mythologies immobiles. Un ange en diamant brisa toutes les vitrines et les morts m'accostèrent avec des mines de l'autre monde. Mais leurs visages et leurs attitudes devinrent bientôt moins funèbres. Le ciel et la terre perdirent leur aspect fantasmagorique. Les morts se réjouissaient de voir leur corps trépasser entre eux et la lumière. Ils riaient de leur ombre et l'observaient comme si véritablement c'eût été leur vie passée. Alors je les dénombrai. Ils étaient 49 hommes, femmes et enfants qui embellissaient à vue d'œil et me regardaient maintenant avec tant de cordialité, tant de tendresse même, que les prenant en amitié tout à coup, je les invitais à une promenade, loin des arcades de leur maison. Et tous, bras dessus, bras dessous, fredonnant des airs militaires, oui, tous vos péchés sont absous, nous quittâmes le cimetière. Nous traversâmes la ville et rencontrions souvent des parents, des amis qui se joignaient à la petite troupe des morts récents. Tous étaient si gais, si charmants, si bien portants, que bien malin qui aurait pu distinguer les morts des vivants. Puis dans la campagne, on s'éparpilla. Deux chevaux légers nous joignirent. On leur fit fête. Ils coupèrent du bois de viorne et de sureau, dont ils firent des sifflets qu'ils distribuèrent aux enfants. Plus tard, dans un bal champêtre, les couples mains sur les épaules dansèrent au son aigre des sitares. Ils n'avaient pas oublié la danse, ces morts et ces mortes. On buvait aussi, et de temps à autre, une cloche annonçait qu'un nouveau tonneau allait être mis en perce. Une morte, assise sur un banc, près d'un buisson d'épines vinettes, laissait un étudiant agenouillé à ses pieds lui parler de fiançailles.
« Je vous attendrai 10 ans, 20 ans s'il le faut. Votre volonté sera la mienne. Je vous attendrai toute votre vie, » répondait la morte.
Des enfants de ce monde ou bien de l'autre chantaient de ces rondes aux paroles absurdes et lyriques qui sans doute sont les restes des plus anciens monuments poétiques de l'humanité. L'étudiant passa une bague à l'annulaire de la jeune morte.
« Voici le gage de mon amour, de nos fiançailles. Ni le temps ni l'absence ne nous feront oublier nos promesses, et un jour nous aurons une belle noce, des touffes de myrte à nos vêtements et dans nos cheveux, un beau sermon à l'église, de longs discours après le banquet et de la musique. De la musique. Nos enfants, dit la fiancée, seront plus beaux encore. »
Hélas, la bague était brisée. Que s'ils étaient d'argent ou d'or, d'émeraude ou de diamant, seront plus clairs encore que les astres du firmament, que la lumière de l'aurore, que vos regards, mon fiancé, auront meilleure odeur encore. Hélas, la bague était brisée. Que le lilas qui vient d'éclore, que le thym, la rose, ou qu'un brin de lavande ou de romarin.
Les musiciens s'en étant allés, nous continuâmes la promenade. Au bord d'un lac, on s'amusa à faire des ricochets avec des cailloux plats sur l'eau qui dansait à peine. Des barques étaient amarrées dans un havre, on les détacha. Après que toute la troupe se fut embarquée et quelques morts ramaient avec autant de vigueur que les vivants, à l'avant du bateau que je gouvernais, un mort parlait avec une jeune femme vêtue d'une robe jaune, d'un corsage noir, avec des rubans bleus et d'un chapeau gris orné d'une seule petite plume défrisée.
« Je vous aime, » disait-il, « comme le pigeon aime la colombe, comme l'insecte nocturne aime la lumière. »
Trop tard, répondait la vivante.
Repoussez, repoussez cet amour défendu. Je suis mariée. Voyez l'anneau qui brille. Mes mains tremblent. Je pleure et je voudrais mourir.
Les barques étaient arrivées à un endroit où les chevaux légers savaient qu'un écho répondait de la rive. On ne se lassait point de l'interroger. Il y eut des questions si extravagantes et des réponses tellement pleines d'à-propos que c'était à mourir de rire.
Et le mort disait à la vivante, « Nous serions si heureux ensemble.
Sur nous l'eau se refermera, mais vous pleurez et vos mains tremblent. Aucun de nous ne reviendra. » On reprit terre, et ce fut le retour. Les amoureux s'entraimaient, et par couple, aux belles bouches, marchaient à distances inégales. Les morts avaient choisi les vivantes, et les vivants des mortes. Un genévrier, parfois, faisait l'effet d'un fantôme. Les enfants déchiraient l'air en soufflant les joues creuses dans leurs sifflets de viorne ou de sureau, tandis que les militaires chantaient des tyroliennes en se répondant comme on le fait dans la montagne.
Dans la ville, notre troupe diminua peu à peu. On se disait « Au revoir, à demain, à bientôt ».
Beaucoup entraient dans les brasseries, quelques-uns nous quittèrent devant une boucherie canine, pour y acheter leur repas du soir.
Bientôt, je restai seul avec ces morts, qui s'en allaient tout droit au cimetière, où, sous les arcades, je les reconnus, couchés, immobiles et bien vêtus, attendant la sépulture derrière les vitrines. Ils ne se doutaient pas de ce qui s'était passé.
Mais les vivants en gardaient le souvenir. C'était un bonheur inespéré et si certain qu'ils ne craignaient point de le perdre.
Ils vivaient si noblement que ceux qui, la veille encore, les regardaient comme leurs égaux ou même quelque chose de moins, admiraient maintenant leur puissance, leur richesse et leur génie. Car y a-t-il rien qui vous élève comme d'avoir aimé un mort ou une morte? On devient si pur qu'on en arrive dans les glaciers de la mémoire à se confondre avec le souvenir. On est fortifié pour la vie. Et l'on n'a plus besoin de personne. Cortège. Oiseau tranquille au vol inverse, oiseau qui nidifie en l'air à la limite où notre sol brille déjà, baisse ta deuxième paupière, la terre t'éblouit quand tu lèves la tête. Et moi, aussi de près, je suis sombre, éterne, une brume qui vient d'obscurcir les lanternes, une main qui tout à coup se pose devant les yeux, une voûte entre vous et toutes les lumières, et je m'éloignerai, m'illuminant au milieu d'ombre et d'alignement Dieu, des astres bien-aimés. Un jour, je m'attendais moi-même, je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes pour que je sache enfin celui-là que je suis, moi qui connais les autres. Je les connais par 500 et quelques autres, il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir refaire ces gens humiliés. De voir leurs pieds paniques, un seul de leurs cheveux, ou leur langue quand il me plaît de faire le médecin, ou leurs enfants quand il me plaît de faire le prophète, les vaisseaux des armateurs, la plume de mes confrères, la monnaie des aveugles, les mains des muets. Ou bien encore à cause du vocabulaire et non de l'écriture, une lettre écrite par ceux qui ont plus de 20 ans, il me suffit de sentir l'odeur de leurs églises, l'odeur des fleuves dans leurs villes, le parfum des fleurs dans les jardins publics. Ô Corneille Agrippa, l'odeur d'un petit chien me suffit pour décrire exactement tes concitoyens de Cologne, leur roi mage et la ribambelle Ursuline qui t'inspirait l'erreur, touchant toutes les femmes. Il me suffit de goûter la saveur du laurier qu'on cultive pour que j'aime ou que je bafoue, et de toucher les vêtements pour ne pas douter si l'on est frileux ou non. Ô gens que je connais, il me suffit d'entendre le bruit de leurs pas pour pouvoir indiquer à jamais la direction qu'ils ont prise. Il me suffit de tout cela pour me croire le droit de ressusciter les hôtes. Un jour, je m'attendais moi-même. Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes. Et d'un lyrique pas s'avançaient ceux que j'aime, parmi lesquels je n'étais pas. Temps passé, trépassé, les dieux qui me formatent, je ne vis que passant ainsi que vous passâtes, et détournant mes yeux de ce vide à venir en moi-même, je vois tout le passé grandir. Rien n'est mort que ce qui n'existe pas encore. Près du passé luisant, demain est incolore. Il est informe aussi près de ce qui est parfait. Présente tout ensemble, et l'effort, et les faits.
Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà les rentes hirondelles qui rasent du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères le bois tombé des forêts. C'est la saison où tout tombe au cours redoublé des vents. Un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Ils tombent alors par mille comme la plume inutile que l'aigle abandonne aux airs. Lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers. C'est alors que ma paupière vous vit pâlir et mourir. Tendre fruit qu'à la lumière, Dieu n'a pas laissé mûrir. Quoique jeune sur la terre, je suis déjà solitaire parmi ceux de ma saison. Et quand je dis en moi-même, où sont ceux que ton cœur aime, je regarde le gazon. C'est un ami de l'enfance qu'au jour sombre du malheur nous prêta la Providence pour appuyer notre cœur. Il n'est plus, notre âme est veuve, il nous suit dans notre épreuve et nous dit avec pitié: ami, si ton âme est pleine de ta joie ou de ta peine, qui portera la moitié? C'est une jeune fiancée qui, le front ceint du bandeau, n'emporta qu'une pensée de sa jeunesse au tombeau. Triste hélas, dans le ciel même, pour revoir celui qu'elle aime, elle revient sur ses pas et lui dit: ma tombe est verte sur cette terre déserte. Qu'attends-tu? Je n'y suis pas. C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant. C'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Tous enfin dont la vie un jour ou l'autre ravie emporte une part de nous, semble dire sous la pierre: vous qui voyez la lumière de nous, vous souvenez-vous? Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après donc cette pause musicale, je vous propose quelques passages d'un texte de Charles Juliette, L'inattendu, que nous continuerons jusqu'à la fin de cette semaine. L'inattendu, Charles Juliette. Elle est sa maîtresse depuis 3 ans. Il est fou d'elle. Aucune femme ne saurait lui être comparée. Elle est la plus belle du village, la plus belle et la plus élégante. Il ne cesse de penser à elle, à sa silhouette, son visage, son regard, ses lèvres, sa poitrine, à ses mains qui sont blanches et fines. Quand elle s'adresse à lui, il est dans un tel trouble qu'il ne peut balbutier un mot. Elle fronce alors les sourcils, et ses grands yeux verts se chargent d'une interrogation inquiète.
Sous ce regard, son trouble se mue en angoisse et il bafouille n'importe quoi. Elle hoche la tête, pose avec tendresse sa main sur sa tête où lui caresse la joue. Il se mord les lèvres de crainte que son secret ne lui échappe. Il voudrait hâter la marche du temps afin d'être un jour admis à vivre auprès d'elle. Le soir, dans sa famille, quand les autres sont tous assis devant la cheminée où brûlent d'énormes bûches de châtaigniers, il s'étend sur le vieux canapé, presse son visage dans un angle et s'abandonne à ses rêves. Le plus souvent, la scène se présente ainsi. Le fauteuil est rouge et lui, il est assis sur ses genoux. Elle parle de sa voix claire et il écoute. Follement heureux, le visage enfoui dans la douceur de ses seins. Peu avant les grandes vacances, il apprend incidemment qu'à la rentrée, elle enseignera dans une autre école, qu'il ne la verra plus. Le dernier jour, il ne se rend pas en classe. Il n'aurait pas le courage de lui dire adieu. Il va marcher au fond des bois. Il a idée de se perdre, de mourir, de se faire dévorer par les bêtes. Il est rare que l'enfant désobéisse, mais parfois, en fin de matinée ou d'après-midi, il se sauve et va se planter devant la boucherie à une centaine de mètres de la ferme. Il aime assister à la sortie de l'usine, voir la rue pleine de monde, dire bonjour aux hommes et aux femmes qu'il connaît. Il arrive même qu'il s'attarde un peu trop et oublie l'heure du repas. Lorsqu'il rentre, pour le punir, on lui fait croire que sa mère s'est enfuie. La douleur qu'il éprouve le rend comme fou. Et courant et sanglotant, il se met alors à la chercher partout. Lorsqu'il la retrouve cachée dans un placard ou derrière la porte de l'écurie, il la frappe à coups de poing ou se jette contre elle, presse sa tête contre son ventre et l'étreint de toutes ses forces. Une de ces maladies de l'enfance qui l'a laissé affaibli. Les autres sont à l'église, où ils assistent à la messe. Par la fenêtre, ils contemplent longuement ces diamants que le soleil fait scintiller dans la neige. Une mésange se pose tout près, et ils l'observent avec émotion, retenant son souffle. La mère prépare le repas. Il s'ennuie, frissonne. Il dispose une chaise entre la cuisinière et l'alcôve, devant la caisse à bois. La mère le prend sur ses genoux et il s'abandonne, laisse peser sa tête dans le creux de son bras. Le tic-tac de l'horloge, le feu qui ronfle, la bonne odeur de la soupe qui mijote. Dehors, la neige, le froid, les oiseaux qui meurent. La mère le berce en chantonnant. Il joue à palper et mollement pincer la peau de son coude. Yeux clos, à demi assoupi, il se recroqueville, presse son visage contre elle, et bien qu'il soit grand, peut-être pourrait-elle lui donner un peu de son lait. La gravité de son regard, la douceur de sa voix, la bonté de ses seins. Il dérive, glisse, s'enfouit toujours plus profondément dans la moelleuse tiédeur dont elle l'enveloppe et, insensiblement, il remonte dans sa nuit, se fond en elle, reste blotti dans la chaude intimité de ses flancs. Bien plus tard, devenu adulte, alors qu'il ne pouvait se défaire de la hantise du temps et de la mort, il s'est souvent remémoré cet instant. Délivré de la peur, il avait vécu là l'essence du bonheur, de la joie. Une joie inoubliable, extrême, absolue, une joie telle qu'aucune autre ne pourrait lui être comparée. Et lorsque ce souvenir ressurgissait, soit il en recevait de la lumière, soit il était pris de nostalgie, sombrait dans des humeurs moroses. Ils sont 10 à vivre dans cette cuisine qui n'est pas des plus grandes. Pour faire ses devoirs ou apprendre ses leçons, l'enfant a du mal à trouver un coin de table et ne pas se laisser distraire par les conversations, le bruit des seaux, les frères et les sœurs qui chantent ou se chamaillent. Souvent, dans ses prières, il demande à tomber malade. Il pourrait ainsi rester seul avec sa mère pendant que les autres seraient à l'école ou au travail. Mais le bon Dieu ne lui a jamais donné satisfaction. Il pense à lui avec rancune. La neige s'est mise à fondre. Au cours de la nuit, la température a brusquement chuté. Et le matin, les rues du village sont couvertes d'une épaisse couche de glace. Il enfile de vieilles chaussettes sur ses galoches et va faire les commissions. La rue qu'il lui faut emprunter est extrêmement pentue, et alors qu'il monte, un homme la descend. Soudain, l'homme glisse, tombe, et la bouteille se brise qu'il tenait précautionneusement sous son bras. Il jure, se relève, tombe à nouveau, retire vivement sa casquette et la presse contre le sol, devant ses genoux, pour retenir ce qui coule le long de la pente. Tandis que l'odeur de l'eau de vie lui parvient, l'enfant voit l'homme se plaquer sur la glace et laper en toute hâte le précieux liquide. Pierrot est toujours à traîner par les rues où il passe son temps à commettre des pires bêtises. Il habite le même quartier que l'enfant et a quelques années de plus que lui. L'enfant sait qu'il ne doit pas le fréquenter, mais bien souvent, il lui est impossible de l'éviter. Pierrot prend plaisir à brutaliser l'enfant et à lui faire toutes sortes de misères. Par exemple, il le contraint à se coucher dans des orties, le pousse à sauter du haut d'un toit ou à dévaler une côte sur un vélo dépourvu de frein. Une fois, alors qu'il mange lui-même un long et gros ver de terre, il met l'enfant au défi d'avaler une limace. Ou bien il l'enferme dans une cave, lui glisse un crapaud sous sa chemise, lui jette une couleuvre vivante dans les jambes. Un jour, il se retrouve au premier étage d'une grange. La moitié du plancher a été retirée et il s'amuse à sauter d'une poutre à l'autre. Dessous, c'est le trou noir. Pour corser le jeu, Pierrot décrète qu'il faut faire un grand bond, se rétablir non sur la poutre la plus proche, mais sur la suivante. Et sans attendre, il effectue le premier saut. L'enfant hésite, doute de pouvoir réussir un tel bond. Dans la seconde qui suit, c'est la litanie qu'il connaît bien. « Oh, le dégonflé ! Oh, le dégonflé !» L'enfant plie les jambes, donne une impulsion, s'élance. Mais à l'arrivée, son pied s'enfonce dans le vide, son visage s'écrase sur la poutre et il disparaît dans le noir. Pierrot s'enfuit. De longues minutes plus tard, quand l'enfant revient à lui, il est étendu sur des sacs de son. Il sort de la grange en se tenant la tête. Il est horrifié par ce sang qui lui poisse les mains. Il pense aussitôt à sa mère, à la frayeur qu'elle aura. Penché en avant, ses mains pressant son visage, il se dirige à petits pas vers la fontaine. La rivière descend des montagnes et court au pied d'une haute colline sombre couverte de bois. Elle n'est large que de quelques mètres, mais à cette époque de l'année, elle est en crue. Coupée çà et là par de petites chutes, sa pente est irrégulière et ses eaux troubles bouillonnent en grondant. Il a peur de cette rivière. D'autant que depuis l'hiver, il ne peut se défaire de la vision de cette femme morte, au corps raidi par le gel qu'on avait ramené chez elle sur une brouette. Pendant des jours, les hommes l'avaient cherchée, et ils avaient fini par la trouver plus en aval, dans un coude de la rivière où les eaux étaient prises par la glace. Depuis, il ne cessait de faire des cauchemars dans lesquels la rivière donnait toujours la mort. À l'aide d'un râteau, sa mère étend la terre des taupinières. Il s'ennuie. L'idée lui vient soudain de vérifier à l'aide d'un bâton si les piquets de la clôture ont été plantés à des intervalles bien réguliers. Il se livre avec grand soin à cette opération. Et sans y avoir prêté attention, se trouve bientôt au bord de la rivière. Lorsqu'il en prend conscience, il veut fuir. Mais il aperçoit, accroché à l'extrémité d'une branche qui oscille au gré du courant, un lambeau d'étoffe rouge. Ce tissu pique sa curiosité, excite sa convoitise. S'il pouvait le récupérer, il s'en ferait dans quelques jours un foulard, ou s'en servirait pour pêcher les grenouilles. Du pied, il tâte le terrain, s'approche avec grande précaution. Il saisit la branche et essaie de la tirer à lui. Mais le poids du tissu trempé l'en empêche. Il avance son pied, se penche davantage, s'arc-boute, et lorsque d'un geste brusque, il tente à nouveau de tirer la branche, le sol se dérobe et tête première, il tombe à l'eau. Il se retient de crier, se débat, cherche à agripper des branches, mais le courant l'entraîne. Tout va très vite. Il s'enfonce, refait surface, est étouffé par l'eau qu'il avale. Un remous le rejette près de la rive et d'une main il parvient à attraper l'extrémité d'une branche. Mais le courant est si violent qu'il doit encore batailler ferme pour se tirer d'affaire. Claquant des dents, la tête enfouie dans les bras, il reste étendu dans le pré. Et à la pensée que sa disparition aurait causé à sa mère un terrible chagrin, il éclate en sanglots. Voilà donc pour ce soir ces petites pages poétiques que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.